Cours de critique par le permis Dominique Philippe, le 2 mai 2002 à Saint-Gédard.
Un cours de critique, hein. Oui, bien, situer bien la critique par rapport à la philosophie, par rapport à la logique. Et c'est très important aujourd'hui parce que de fait, on ne fait plus ces distinctions. Il y a un mélange de psychologie, de logique, de critique. Le génie d'Aristote a été de distinguer mais de ne pas séparer. Alors que dans Scott, toute distinction est une séparation. Et vous comprenez très bien que distinguer n'est pas nécessairement séparer. C'est parce que, au fond, nous distinguons les deux opérations de l'intelligence, l'appréhension et le jugement. Et au fond, nous, constamment, nous vivons de cette distinction-là. Mais on ne réfléchit pas suffisamment. Connaître quelque chose, ce n'est pas affirmer que cette chose-là existe. Oui. Le langage serait très simplifié si chaque fois qu'on parlait, on ne parlait que des choses qui existent. Mais on parle constamment de ce que nous pensons et qui n'existe pas, qui n'existe que dans nos pensées. Alors on appelle ça l'appréhension. Et c'est très important d'arriver à distinguer ça dans votre vie. Arriver à distinguer l'appréhension et le jugement. Je dirais, c'est peut-être la première chose que la critique doit faire. Arriver à faire cette distinction entre la différence de appréhender quelque chose, le saisir, et puis juger. Ceci est, ceci n'est pas. Alors, dans le jugement, on arrivera à voir qu'est-ce qui est premier, l'appréhension ou le jugement. Parce que je crois que ce qu'on appelle la modernité, au point de vue philosophique, c'est le moment où la négation est passée avant l'affirmation. Pour Aristote, la négation présuppose toujours l'affirmation. Du reste, notre langage le montre bien. L'affirmation est plus simple que la négation. Donc si elle est plus simple, elle est première. Parce que vous niez toujours quelque chose que quelqu'un a affirmé. Peut-être pas vous, mais quelqu'un l'a affirmé. Vous voyez, alors, il y a cette chose très curieuse et très importante. Sommes-nous dans la perspective aristotélicienne ou sommes-nous dans la perspective moderne? C'est un excellent petit examen de conscience. Si on est dans la perspective aristotélicienne, on est dans la perspective de saint Thomas. Ah. Et on est dans la perspective de l'Église. Hein? Aristote, Thomas d'Aquin, notre pape actuel. Lisez son encyclique. Si vous l'avez jamais lu, il faut la lire. Hein? Et même la lire en tant que philosophe. fidèle cette ratio. Parce que vous verrez que vous ne pouvez pas faire de votre intelligence n'importe quoi. Nous serons jugés là-dessus. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, c'est pas nous. On a un devoir de chercher la vérité. C'est même le devoir premier. C'est le devoir le plus fondamental. Je n'ai pas le droit d'abîmer mon intelligence. C'est-à-dire faire de mon intelligence une espèce de virtuosité remarquable d'avoir toujours raison. On aime ça. C'est un jeu. On aime beaucoup le jeu. L'enfant commence par jouer. Et quelquefois, on reste toujours enfant, pas selon l'Évangile, mais on reste toujours enfant psychologiquement. C'est qu'on aime de jouer, et on joue même avec l'intelligence. Alors que, de fait, notre intelligence nous est donnée par Dieu pour progresser dans l'intelligence. Que mon intelligence soit de plus en plus elle-même. Et elle ne peut être elle-même que quand elle cherche la vérité. Parce que la vérité est le bien de l'intelligence. Mon intelligence progresse quand elle découvre la vérité. Mon intelligence stationne quand elle ne cherche plus la vérité. Quand elle a mis la vérité en dehors, voyez, si dans la congrégation, la recherche de la vérité est première, c'est tellement parce que actuellement, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a tellement peu de personnes qui cherchent la vérité. Ça devient comme... Parce que si on ne cherche plus la vérité, très vite, on perdra la foi. Sans le savoir. Parce que la foi est reçue dans notre intelligence. Si notre intelligence est faussée, notre foi, petit à petit, semblera complètement idiote. J'ai connu non, pas parce que j'ai connu un dominicain bon, qui, quand même, devait avoir le sens de rechercher la vérité. Comme pour lui, la vérité ne pouvait être qu'une vérité logique, au fond, il s'est posé de terribles problèmes à propos de la transsubstantiation. En disant, c'est impossible de l'expliquer. C'est vrai, scientifiquement, vous ne pouvez pas expliquer la transsubstantiation. C'est impossible à expliquer. Donc, ce n'est pas vrai. Il a terminé sa vie, c'est son testament, en disant, toute ma vie, je me suis heurté à la transsubstantiation. Enfin, je suis délivré. C'est que c'est symbolique. Donc, tout le mystère chrétien de l'Eucharistie, qui n'est pas symbolique, c'est la réalité. Le corps du Christ m'est donné. C'est pas symbolique uniquement pour m'apaiser, pour jouer. Dieu ne joue pas comme ça avec nous. Dieu nous conduit par sa sagesse. Et sa sagesse implique le bien de l'intelligence qui est la vérité. Et je crois que c'est l'enjeu principal d'aujourd'hui. C'est la conversion intérieure, ça. Non seulement du cœur, Parce que trop facilement, on se contente de la conversion du cœur. Trop facilement. Alors à 40 ans, on se réveille en disant « c'est idiot ». Et on en va promener la voix. La conversion, il y a d'abord une conversion du cœur. Je crois que presque tous, quand on entre dans un ordre, c'est en premier lieu une conversion du cœur. Et puis, il y a ensuite une conversion de l'intelligence. Et la conversion de l'intelligence, elle nous est laissée, on est juge, on est ouvrier de la conversion de notre intelligence. C'est pas seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait toc, 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 toc. Il frappe, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois être plus docile. Il y a une conversion de l'intelligence. La conversion de l'intelligence, ce sont les trois années, quatrième année de philosophie. Parce que si vous commencez votre théologie n'ayant pas la conversion de l'intelligence, vous ferez votre théologie à votre fantaisie, ce ne sera plus la théologie de l'Église. Et c'est pour ça que l'encyclique, pour nous, du Saint-Père sur Ratio et Fide, est capitale. Il faut tous, au moins, la lire, la relire, chaque année. Pour comprendre que on est avant tout chrétien, avant tout, premièrement, puisqu'on est ici. Donc, l'enseignement du Saint-Père, pour nous, est un enseignement qu'on ne discute pas. L'encyclique, on doit être comme un bois, on la digère plus ou moins bien, on a fait un petit peu mal à digérer. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, mais progressivement, la première année qu'on lit l'encyclique, c'est rare qu'on comprend tout. L'encyclique n'est pas faite pour les fidèles en premier lieu. Elle est écrite pour, en premier lieu pour les professeurs de théologie. Nous sommes tous appelés à être professeurs de théologie, hein. Avec l'école Saint-Jean, tous appelés. Donc, la recherche de la vérité est capitale. Quelqu'un qui entrerait dans la congrégation Saint-Jean n'ayant pas ce désir de vérité, se trouvera mal à l'aise, forcément, et où il se convertira progressivement, parce que la conversion de l'intelligence, elle se fait progressive. On ne vous demande pas d'être converti quant à votre intelligence quand vous frappez à la porte de la congrégation. On vous demande la conversion du cœur, cette bonne volonté de suivre Jésus, mais cette volonté de suivre Jésus en faisant que, au bout d'un certain temps, on retourne sur le lac de Galilée pour être des pêcheurs de poissons, parce qu'on a tous une nostalgie de pêcheurs de poissons, on a tous une petite spécialité ou mathématique, ou artistique, et on voit que ça ne colle pas avec la résurrection du Christ. C'est tellement curieux ce passage. Et c'est Pierre qui les appelle, hein. Il croit que la résurrection du Christ n'a rien changé. Ils peuvent retourner être des pêcheurs du lac de Galilée. Et c'est pour ça que Jésus, la seule fois dans l'évangile, Et les enfants, on s'est conduit comme des enfants. On a cru que ça allait continuer. Non, ça ne peut pas continuer. Il y a la conversion de l'intelligence. C'est très curieux, c'est très important. Et la critique nous aide énormément à la conversion de l'intelligence. Oui, je me suis posé la question, et je la pose toujours, je reste moi-même. Quel est le signe caractéristique de la modernité au point de vue de l'intelligence? Alors la modernité, elle s'est manifestée de multiples façons, au point de vue artistique, au point de vue humain. Mais quel est le signe? Je crois que le signe, c'est de mettre la négation avant l'affirmation. Très étonnant. Et c'est à partir du XIVe siècle. Avant, c'était passager. Mais à partir du XIVe siècle, la négation est passée avant l'affirmation. Et cela, ça s'est fait chez un théologien. Parce que, au point de vue théologique, la négation est première. Dieu n'est pas un être composé. Toute composition n'entre pas dans le mystère de Dieu. Il est omnino simplex, tout à fait simple. Et donc la négation est première. Dieu n'est pas un corps. Dieu n'est pas composé de sensibilité. Dieu n'est pas... Toutes les négations, les sept grandes négations. Premier article de saint Thomas sur la simplicité de Dieu. Il faut regarder toutes ces négations. Le théologien nie toutes les compositions parce que la simplicité... Vous n'avez aucun concept de la simplicité. Aucun. Vous n'avez jamais rencontré la simplicité. Tout ce que vous avez expérimenté est complexe. C'est composé. Parce que toutes les réalités physiques sont composées. On vit dans un monde composé. Donc le théologien, lui, pour monter jusqu'à Dieu, première négation de tout ce qui est composé. Dieu est absolument simple. Et vous n'avez pas l'intuition de la simplicité. Parce que toute intuition est une relation. Vous n'avez pas l'intuition de la simplicité. Et quand vous dites Dieu est absolument simple, vous comprenez ce primat de la négation en théologie. On peut être un primat de la négation en théologie, parce que le primat en théologie, c'est la foi. Alors la foi n'est pas négative. Donc la négation, c'est sur l'affirmation de la foi. Quand j'ai la foi, j'affirme que Dieu existe. Et en affirmant que Dieu existe, je peux dire que Dieu est au-delà de toutes les négations. Au-delà de toutes les compositions. Toute composition n'est pas Dieu. Dieu est absolument simple. C'est la foi, ça. C'est la foi qui émerge. Et pour que la foi émerge, il faut nier toute expérience. Vous n'avez pas l'expérience de Dieu. Alors, vous voyez, c'est pour ça que la phénoménologie qui demeure dans l'expérience, interne et externe, je ne peux pas atteindre Dieu. Je ne peux pas atteindre Dieu dans la phénoménologie. Alors, la foi atteint Dieu, mais la foi implique cette négation de toute concept. Je n'ai pas de concept de Dieu. J'affirme Dieu. Vous voyez la distinction entre appréhension et affirmation. J'affirme Dieu existe. Et vous n'avez pas de concept. Alors si vous restez uniquement sur l'intelligence conceptuelle, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas pour votre intelligence. Mais Dieu existe pour votre intelligence si vous affirmez qu'il existe. Et Dieu n'existe pour votre intelligence que par l'affirmation. Dieu existe. Et Dieu existe. Et il n'a aucune composition. Donc, vous êtes obligé, au niveau de l'appréhension, de dire que vous n'avez pas de concept de Dieu. Voyez cette chose très curieuse. Hein, Aristote affirme l'affirmation est première. Ceci est. Et toute votre philosophie repose sur ceci est. Et je me souviens en Sorbonne, le père Marie-Dominique a passé ça. Son doctorat, il y avait dans le jury quelqu'un qui était un ex, c'est-à-dire un ex-jésuite. Donc il connaissait très bien saint Thomas. Et j'étais juste en face de lui, il me regardait tout le temps. On se regardait tout le temps. On sentait qu'il y avait quelque chose comme ça. Il dit, ah, c'est curieux, vous revenez toujours sur ce jugement d'existence, mais qu'est-ce que c'est que ce jugement d'existence? Vous voyez, alors un philosophe qui se pose la question, qu'est-ce que c'est que le jugement d'existence? On a envie de lui dire, allez à l'école des enfants quand même, il joue. Ben, il joue le ballon, il est. Il ne joue pas avec un bâton, un ballon éphémère, quoi. Il est au foot, vous savez bien le jugement d'existence. Il est au bout de votre pied. Le jugement d'existence. C'est curieux, c'est élémentaire. Hein. Mais l'élémentaire devient la bête qu'on chasse. Parce que c'est pas construit par l'intelligence. Ah, c'est vrai. Quand je dis ceci est, j'accepte qu'il y a quelque chose en dehors de moi qui existe. C'est formidable, ça. D'accepter en dehors de moi qu'il y a quelque chose qui existe. Ben, votre voisin, il est. Vous pouvez le connaître, tant mieux. Mais ce n'est pas votre connaissance qui fait qu'il existe. Vous le connaissez, il est. Oui, alors, c'est ça qui, au point de vue critique, pour nous, est capital. C'est de comprendre qu'il y a une dualité foncière en nous. Et que cette dualité n'est pas arbitraire. Ne disons pas, ah oui, ça c'est le système d'Aristote. Mais non, c'est la vérité. Parce que si vous n'acceptez pas ça, la foi, qui n'est pas arbitraire, hein, en tant que chrétien, vous acceptez que la foi n'est pas arbitraire. C'est quand même le contact avec le Christ, avec Dieu. C'est pas arbitraire. Dieu n'est pas arbitraire, il est. S'il n'y a pas cette distinction entre appréhension et jugement, votre foi semble impossible. La foi met le jugement avant l'appréhension. Puisqu'il n'y a pas d'appréhension de Dieu. Vous n'avez pas de concept. L'appréhension nous donne des concepts. Vous n'avez pas de concept de Dieu. Et vous affirmez, Dieu existe. Le Christ existe. Donc c'est l'affirmation. Alors, la foi fait que l'affirmation passe avant l'appréhension. Alors que dans votre vie courante, l'appréhension est toujours première. Mais quand vous atteignez l'existence de Dieu, vous acceptez que votre jugement va plus loin que votre appréhension. Et c'est ça qui nous permet d'avoir l'humilité dans mon intelligence. Je suis humble quand j'affirme Dieu existe. Je n'ai aucune appréhension de Dieu. Et je dis, il est. Donc j'accepte qu'il existe quelque chose, une personne, la personne, je sais qu'elle existe sans rien connaître d'elle. Extraordinaire ça, hein, au fond. Et c'est ça le jugement de foi. Et tant que vous n'avez pas saisi ça, votre foi, elle risque d'être très imaginaire. Tandis que là, vraiment, c'est votre intelligence qui dit « je crois en Dieu ». Mais Dieu, je ne sais pas ce qu'il est. Je crois en lui. Alors vous réfléchirez « ah, Dieu m'a parlé ». Alors la foi, c'est justement de croire en la parole. Abraham, Dieu a parlé. Dieu a parlé en son fils, Jésus-Christ. Et je crois en lui. Vous voyez, donc ce que nous voyons en voyant la distinction de l'appréhension et du jugement, ce n'est pas arbitraire. Ce n'est pas en raison d'un philosophe qui dit ça que je suis. Non, c'est quelque chose, une réalité, que nous devons tous saisir. Parce que c'est élémentaire et c'est capital. Le propre de la pensée d'Aristote, puisque c'est Aristote le premier qui a montré d'une façon très forte dans le Périherménias. Son livre Périherménias, au terme de ce livre, il montre bien que cette distinction de l'appréhension et du jugement est capitale. Vous voyez, la critique revient toujours sur ce qui est fondamental. Ce sur lequel j'appuie toute ma philosophie. J'appuie toute ma philosophie sur le jugement d'existence. Ceci est. Et je n'accepte au point de vue philosophique que ce qui existe. Je n'accepte que cela. Et j'élague tout ce qui est imaginatif. Je m'en sers, mais jugement d'existence devient la pierre fondamentale sur laquelle je m'appuie. Comme, au point de vue chrétien, je m'appuie sur l'acte de foi. Dieu a parlé le Christ, Dieu a parlé en nous envoyant son Fils, en nous voyant les prophètes. Dieu a parlé. Dieu continue de parler avec l'enseignement de l'Église. Et l'enseignement de l'Église, c'est le Saint-Père qui a l'infaillibilité. Les encycliques de l'Église. Et les définitions. Mais c'est très important de voir sur quoi on édifie notre philosophie. On l'édifie non pas sur quelque chose de conventionnel, on l'édifie sur ce jugement d'existence. Quand vous prenez ce jugement d'existence, vous voyez donc appréhension. L'appréhension a comme fruit les concepts. Les concepts n'existent que dans mon intelligence. Quand je réfléchis sur un animal, j'ai un concept du chien, du chat, du moustique, de l'éléphant. Je peux penser l'éléphant. C'est une grosse bête, très difficile à avaler d'un seul coup, mais j'ai le privilège, avec mon intelligence, de l'avaler. Tout ce que je pense, c'est dans mon intelligence. Je conçois. Mon intelligence produit des concepts. Et mon jugement produit des propositions. Ceci est. Donc il y a deux choses. Il y a ceci et est. J'ai donc conçu ceci avant le jugement d'existence, ceci est. Et j'ai conçu l'être, ce qui me permet de dire ceci est. C'est curieux. Je conçois et dans le jugement. Tandis que je conçois le ceci dans l'appréhension. Je ne conçois pas et sans jugement dire et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. Tandis qu'on me dit ceci est, ah oui, vous indiquez. Vous voyez, c'est très simple, mais en même temps, c'est très important de revenir toujours à ça. Toute ma philosophie repose sur le jugement d'existence. Tout ce que j'affirme en philosophie, je peux et je dois pouvoir montrer ce lien avec l'existence. Il n'y a rien d'imaginatif. Tout est construit en fonction de ce jugement d'existence. C'est là la différence d'une philosophie réaliste et d'une philosophie idéaliste. La philosophie idéaliste, c'est tout ce que je conçois, tout ce que j'imagine. C'est ma philosophie. Vous voyez, comme un poète. On ne demande pas au poète que tout ce qu'il dit existe. Non. On lui demande de dire quelque chose de beau. Et ce quelque chose de beau, il n'existe pas nécessairement. Et même j'en ai bien besoin quand je vis dans un pays, donc dans un milieu qui n'est pas beau. Quand je vis dans un milieu qui n'est pas beau, oh, j'ai besoin de temps en temps de lire un poème. Ça m'évade. Ça me fait vivre un petit peu au paradis terrestre. Puisque je peux pas y retourner. Mais je peux peut-être y m'imaginer. Ah oui. Et il est la source de toutes les imaginations. De tous les refoulements. J'ai ma nature humaine, la nature humaine que j'ai, a existé dans le paradis terrestre. Le paradis terrestre n'est pas loin de moi. Ma nature a vécu là. C'est pas étonnant que des refoulements. C'est vrai, la nature, c'est pas loin. Hein, tout la même nature. Le temps, c'est l'individu, c'est pas la nature. Donc ma nature a connu ça. C'est pas étonnant que de temps en temps, il y ait des refoulements. Et vous voyez que de temps en temps, des personnes qui ont une espèce de nostalgie affolante du paradis terrestre. Philosophiquement, vous ne l'expliquez pas. Parce que vous dites, comment se fait-il que ça? Théologiquement, vous dites, c'est pas étonnant. On a tous envie de retourner au paradis terrestre. Tous. Quelqu'un qui n'aurait pas envie de retourner au paradis terrestre, il lui manque quelque chose. Parce qu'on est sorti du paradis terrestre. Vous voyez, la foi augmente vos nostalgies. Terriblement. J'ai une nostalgie folle du ciel. De tout ce qui se passe sur la terre, mais ouais, pas drôle du tout. À côté du ciel. Et c'est pas imaginatif. Hein. C'est la foi. Vous voyez, la foi ne me donne pas de nouveau concept, mais un nouveau jugement. Et de nombreux jugements. Tout ce que je crois se donne dans un jugement. Marie est immaculée. C'est un jugement. Marie est immaculée. Ah, donc, Marie me met en contact avec quelqu'un qui est beaucoup plus que le paradis terrestre. Beaucoup mieux que le paradis terrestre. Et elle est même de la même nature que moi. C'est extraordinaire. Vous voyez comme quelle nostalgie j'ai d'être comme Marie. Toutes les petites filles désiraient être comme Marie. C'est sûr. Quand on leur a parlé, Marie splendide, on a montré les apparitions de Marie. Donc, dans leur foi, on a des nostalgies terribles au point de vue chrétien. Ces nostalgies reposent sur le jugement d'existence. Et ce jugement d'existence a quelque chose de vrai. Et c'est pour ça qu'à partir de là, on forge des nostalgies. Le chrétien, s'il ne fait pas grande attention, vit en nostalgie. Alors à ce moment-là, il est terriblement tenté. Parce qu'il regarde tout ce qui existe dans la lumière de ses nostalgies. Vous voyez, c'est un faux jugement de sagesse. Il regarde en fonction de ses nostalgies. J'avais rêvé, entrer dans la communauté Saint-Jean, d'entrer dans un nouveau paradis. Et puis au bout d'un an, je m'aperçois que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je ne sonne pas du faux paradis terrestre. Ah, c'est la croix du Christ. Tiens. C'est la croix du Christ. Je suis plus proche de la croix du Christ quand je suis dans la congrégation qu'avant. Alors la croix du Christ me donne de ses frousses. Et j'ai envie de filer. Pas étonnant. Mais vous ne pouvez pas filer au paradis terrestre. Non. Il y a l'ange qu'il garde et qui vous empêche d'entrer. Mais vous comprenez, si dans l'Écriture, on nous montre que l'ange est là qui garde le paradis terrestre, cela prouve qu'on a une terrible nostalgie du paradis terrestre. Autrement, Dieu ne mettrait pas comme ça un ange réquisitionné pour ça. Parce qu'on a toujours, et ces nostalgies du paradis terrestre naissent différemment. Ce serait très intéressant de voir comment ces nostalgies sont très vite, dès le début, et prennent des coloris différentes, des manières différentes de s'exprimer. Le siècle des Lumières, c'était bien le désir du paradis terrestre. D'avoir une intelligence qui fait que la beauté, c'est la bonté, la nostalgie du paradis terrestre. Alors, c'est pour comprendre que la distinction, appréhension et jugement, il faut qu'elle devienne pour vous quelque chose d'élémentaire. Et, grâce à Dieu, le langage est là. Ceci est ceci. Ceci, c'est le crapaud, c'est l'âne, c'est moi-même. Et c'est dans un jugement que j'arrive à concevoir l'être. Et je conçois l'être toujours dans un jugement. Et c'est très curieux, cela. Cette réflexion est très importante. Quand vous avez un concept d'être, alors vous isolez l'être du jugement. Et vous risquez, à ce moment-là, de croire que vous avez conçu l'être. Non. Vous l'avez saisi dans un jugement. La naissance en vous du jugement être. Ceci est. Et vous pouvez regarder certaines langues dans lesquelles le verbe être n'existe pas. Ils ne sont pas arrivés encore à ce jugement, ceci est. Quand je conçois le point de vue être, je m'aperçois que mon appréhension peut être avant l'être et après l'être. Avant l'être, j'ai des concepts très définis, genre, différents spécifiques, espèce, propriété, accident, cinq. Mon appréhension se donne de cinq manières. Concept générique, animal. Vous voyez ? Et quelquefois, ce concept générique va se transformer en un jugement quand vous dites espèce d'animal. La pire des injures. Espèce d'animal. Parce que c'est vrai. Donc c'est une injure qui est dû rapporter quand on vous dit espèce d'animal. Parce que vous êtes un animal. Et je le suis avec vous. Espèce animale. Le genre. Le genre est le concept générique, l'appréhension la plus fondamentale. Dans le langage, vous voyez, genre, et cela relève de mon intelligence. C'est quelque chose de naturel, le genre. C'est pas arbitraire, non. Pourquoi ? Parce que mon intelligence a besoin de recueillir tout ce qui est dans le genre. Du petit moustique jusqu'au gros éléphant et entre deux, l'homme. Parce que l'homme est entre le moustique et l'éléphant. Au point de vue du poids, quantitativement, au point de vue corporel, il est entre l'éléphant et le moustique. Là, vous avez des genres qui sont comme des moustiques. Et vous avez des hommes qui sont comme des éléphants. C'est entre les deux. Et vous concevez le genre. Très vite, hein, quand l'enfant dit au début « c'est papa », et puis il arrive à distinguer papa d'un homme. C'est très curieux, ça. Vous ne pouvez pas vous souvenir, hein, quand vous avez changé, êtes arrivé à distinguer papa et homme. Vous êtes passé de l'individu, papa, à homme, le genre. Et vous faites ça automatiquement maintenant. Le point de vue, différent spécifique, vous avez rationnel, animal rationnel, raisonnable. Donc le rationnel et différent spécifique, ça me distingue l'animal non intelligent de l'animal intelligent. Et je me mets normalement du côté de l'animal intelligent. Distingue les deux. Quand on est arrivé à cela, c'est tout à fait le point de départ du langage. Avant le langage, on a conçu comme ça. C'est très curieux, hein, que mon intelligence a 5 modalités de saisir l'universel. Homme, animal, raisonnable. Vous avez vu là les 3. Genre, différent spécifique et espèce. Et ça, tout homme, dans toutes les langues, on trouve ça quelque chose d'analogue. C'est même par là qu'on doit pouvoir tout le temps voir quelque chose de semblable dans toutes les langues. Parce que c'est l'aspect tout à fait fondamental de mon intelligence. Je saisis toute réalité, de 5 matières. Certaines personnes ont développé beaucoup l'aspect générique. D'autres, plus l'aspect spécifique. D'autres, l'aspect de la propriété. Le propre de l'homme, c'est de rire. C'est pour ça que quand vous riez devant un singe, qui génériquement est assez proche de vous, petite différence spécifique. Mais quelquefois, la différence spécifique humaine raisonnable est tellement cachée que le singe réapparaît. N'est-ce pas ? C'est sûr. Différence spécifique et la propriété. Par où vous distinguez un homme d'un animal ? C'est qu'il sourit. Très curieux, j'ai toujours remarqué ça en Afrique. Quand on rit devant un singe, il est furieux. Il ne faut pas le faire parce qu'il les met en furie. Ça les met en mauvaise humeur. Parce que vous lui rappelez qu'il est singe. Quelle belle chance multiplie. C'est ce qu'il y a de propre en vous. C'est de sourire. Et c'est très vrai. Hein. C'est très fatigant de voir quelqu'un qui ne sourit jamais. Ça ne va pas chez l'enfant. On l'apprend à sourire. Le premier sourire de l'enfant, la mère veut le capter. Et quand vous prenez le premier sourire de l'enfant et que vous n'êtes pas la mère de l'enfant, elle est un peu jalouse. C'est très curieux. C'est tellement naturel à l'homme de sourire. Propriété. Et un accident, il a la barbe ou il l'a pas. Accidentel, ça. Ça change énormément la physionomie de quelqu'un quand il laisse pousser sa barbe. Il devient méconnaissable. Alors, il faut toujours garder cette possibilité. Si toutes vos photographies sont sans barbe, vous avez commis un crime, laissez pousser votre barbe. Alors, on ne vous reconnaîtra pas. C'est l'histoire de ce brigand que le père Marie-Alain avait vu à Genève. Il avait reçu un noble qu'il ne connaissait pas. Puis cet homme dit « Ah, vous ne me connaissez pas, vous ne me reconnaissez pas, mais vous avez vu l'affiche, hein ? On recherche ce brigand. Eh bien, ce brigand, c'est moi. » Là, il a enlevé sa perruque, il a enlevé ses dents, il a tout. C'est ça. Et le père Marie-Alain s'est trouvé souvent ce brillant dont il avait vu la vue. Et ce brillant était venu. Je fais ça parce que je sais que vous êtes un prêtre. Et je désire me confesser. Alors, ne dites pas que vous avez vu le brigand. Taisez-vous. J'ai confiance que vous allez vous taire. Mais il m'a dit, j'étais un drôle de petit secousse, hein. Trouver ce brigand que toute la ville cherchait, qui était méconnaissant. Il avait mis une fausse perruque, tout. Et une perruque magnifique. Vous ne voyez même pas que c'est une perruque, c'est très bien fait. Évidemment, on change complètement. Vous voyez, l'accident. C'est très intéressant, ça, parce que ça montre que la réalité de la personne, on peut, par la manifestation extérieure, la changer complètement. Les hommes d'aujourd'hui, la plupart, des articles de journaux jouent sur les accidents. C'est très intéressant sur le paraître, sur qui apparaît. Au fond, arriver à distinguer l'accident de la nature profonde, du genre différent. Première différence de l'intelligence. L'intelligence saisit sa nerf, puis l'intelligence passe à un autre type de connaissance. Ce sera l'apparition de la science. La première science qui est apparue, ce sont les mathématiques. Et la dernière science qui connaîtra, ce sont les mathématiques. Alors là, il y a une nouvelle abstraction, qu'on appelle l'abstraction formelle. Et c'est très important de comprendre ce passage de l'abstraction générique, différence spécifique, espèce, propriété, accident, à l'abstraction scientifique. Tous, nous connaissons ce que représente l'abstraction mathématique. Nous avons fait des mathématiques élémentaires, l'abstraction du nombre, l'abstraction de l'étendue. Et c'est la première abstraction qu'on connaît, celle-là. Génétiquement, c'est la première. Ce n'est plus l'abstraction élémentaire. C'est très important de distinguer ces deux types d'abstraction. L'abstraction universelle, univoque, et l'abstraction de la science mathématique. Nous verrons ça la fois prochaine. Parce que ça, c'est des choses tout à fait élémentaires sur lesquelles il faut revenir tout le temps. Parce que les confusions des choses élémentaires ont des répercussions énormes sur toute notre pensée.